Eh bien le bonjour Michel Vinoc.
Bonjour.
Je rappelle votre dernier livre, mais faut-il d'abord rappeler que vous êtes historien, professeur émérite à Sciences Po, et pour ce qui nous intéresse ce matin, vous êtes l'un des biographes de Georges Clemenceau, dont on célèbre en ce moment le centenaire de son accession à la présidence du Conseil fin 1917. Vous avez d'ailleurs participé au hors-série que l'hebdomadaire Le 1 consacre au Tigre. Alors il y a tout le bien que les partisans pensent du père Lavictoire, mais d'abord je voudrais qu'on commence par justement la complexité du personnage. J'aimerais qu'on rappelle toutes les critiques qu'a dû subir Georges Clemenceau. Il avait pas mal de détracteurs. Pour quelles raisons ?
D'abord, en raison de son tempérament. C'est un homme agressif et qui, dans les séances de la Chambre des députés, dans ses articles de journal, montre une pugnacité qui n'est pas prisée par tout le monde. Il est un partisan du duel non seulement...
Qui est toléré à l'époque, hein, mais...
Oui, qui est interdit.
Mais interdit, enfin, un peu toléré.
Oui, chez les hommes politiques notamment, il est fréquent, n'est-ce pas, que même Jaurès lui-même s'était battu en duel avec des roulettes, bon. Et donc, on le craint, parce qu'il a des mots assassin, très dur, il est impitoyable. Et alors, pendant la guerre, c'est pareil. Il n'a pas été pris dans un gouvernement, enfin, ou plutôt, on lui a proposé en 1914 de participer à un gouvernement d'union sacrée, mais lui, ce qu'il voulait, c'est être le chef du gouvernement. Mmh. Pas question d'être un auxiliaire. Et d'autre part, il avait contre lui une partie de la classe politique, c'est-à-dire le Parti Socialiste.
Eh oui, justement, il avait contre lui la droite, et plus étonnamment, le Parti Socialiste à sa gauche. Pourquoi les socialistes lui en voulaient ?
Cela date de l'époque où il a été pour la première fois chef de gouvernement, entre 1906 et 1909, et c'est une période pendant laquelle la France a connu un mouvement social extrêmement important. Depuis la Commune de Paris de 1871, on n'avait pas connu un tel mouvement social qui est parti de la catastrophe de Courrières dans les mines du Nord, mines de charbon. Donc on a vu d'abord une grève des mineurs, et puis ça s'est enchaîné sur toute une série de corporations.
Il y aura des mutineries.
Et alors, Clemenceau était ministre de l'Intérieur, tout en étant président du Conseil, et pour lui, loin d'être hostile à la grève, il a au contraire dans sa carrière dès le début défendu le syndicalisme, défendu le droit de grève, mais il était aussi contre le désordre. Il était pour le maintien de l'ordre, et il faut aussi se souvenir que à l'époque les grèves pouvaient être extrêmement violente. Les grévistes pouvaient entrer dans les maisons des non-grévistes et tout casser chez eux. Donc, il y a eu un débat à la Chambre du reste avec Jean Jaurès à ce moment-là. Jaurès qui lui reprochait justement son attitude vis-à-vis des manifestations des grévistes. Et lui, il lui a répondu, mais Jaurès, si vous étiez ministre de l'Intérieur et que vous receviez du préfet tous ces télégrammes qui décrivent la violence qui existe, qu'est-ce que vous auriez fait ? Et Jaurès, à ce moment-là, n'a rien dit. Et Clemenceau lui dit « Votre silence, n'est-ce pas, en dit long ?»
Ouais. 1917, c'est donc une année de grève, vous l'avez dit, une année de mutinerie aussi, et Clemenceau, qui est président du Conseil, mais qui est aussi ministre de l'Intérieur, est très apprécié des soldats. Pour quelle raison ?
Alors attendez, Clemenceau d'abord n'a pas été, pendant tout, presque jusqu'en 1917, il n'a pas de responsabilité.
Non, c'est fin 1917,
voilà,
qu'il devient...
C'est à partir de novembre qu'il est appelé. Poincaré, qui est le président de la République, n'en voulait pas jusque-là.
On va en parler. Juste sur les soldats, pourquoi les soldats aimaient bien le ministre de l'Intérieur ?
Alors parce qu'il passe, quand il est sénateur, et il est président du comité de l'armée et du comité des affaires étrangères. Et il passe une grande partie de son temps à visiter les poilus. Il se rend dans les tranchées. Et il y a entre lui et eux une sorte de fusion, on pourrait dire, affective, spirituelle. Il y va, non pas pour rencontrer les officiers, mais pour rencontrer les combattants. Et il descend, et il fait preuve aussi de courage, même d'une témérité, parce que la guerre continue, et les obus volent, n'est-ce pas, au-dessus de sa tête. Donc, il gagne à ce moment-là un prestige que la presse de l'époque, évidemment, diffuse. Et une simple anecdote, lors d'une de ses visites, les poilus qui étaient là lui ont offert un bouquet d'immortelles, et ces fleurs, eh bien, il les gardera toute sa vie, et elles seront dans sa tombe. Il la garde. Donc, il y a eu cette popularité qui est venue effectivement de ses relations.
Particulière, tout à fait. Il parlera même, Clémenceau parlera même d'un soldat idéal, un soldat de l'humanité. Si Raymond Poincaré nomme Clémenceau pour former un nouveau gouvernement, c'est aussi parce que dans ce deuxième semestre de 1917, il y a le défaitisme ambiant. Que peut faire Clémenceau contre le défaitisme? On est à deux doigts de signer une paix humiliante avec les Allemands.
Il faut dire que l'année 17 est une année épouvantable. Il y a eu au printemps, en avril, l'offensive Nivelle qui s'est terminée par un désastre. 140 000 soldats mis hors jeu et 40 000 morts. Donc, à la suite de cette offensive folle, la France a connu une crise de démoralisation dont les militants pacifistes et même on peut dire défaitistes ont profité pour lancer leur propagande, et Clémenceau a été leur adversaire, et il accusait le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui s'appelle Malvy, de les protéger, de ne rien faire contre les meneurs.
En juillet, Malvy était socialiste, hein, je crois. Non.
Non, pas du tout. En juillet, républicain. En juillet 1917, Clémenceau fait un discours retentissant au Sénat où il accuse Malvy justement de ses faiblesses, et il est applaudi avec une telle ferveur que son discours va être repris dans une brochure diffusée à travers la France. C'est-à-dire qu'à partir de l'été 1917, l'opinion commence à dire l'homme qu'il nous faut, c'est Clémenceau.
Clémenceau qui avait des formules toujours percutantes lorsqu'il était à la tribune au Parlement. On va aller prendre quelques questions au standard. Michel Vinocq, historien, biographe de Clémenceau. Marie-France est en ligne. Bonjour Marie-France.
Non, apparemment c'est pas
mal. Alors, on va prendre Colette peut-être. Colette, vous êtes en ligne.
Oui.
Bonjour Colette. Quelle est votre question à propos de Georges Clémenceau?
Voilà, ma question est un petit peu... j'ai connu un monsieur qui était né c'était mon voisin, en 1899. Il n'a pas fait la guerre 14, mais il a fait l'occupation de la Rhénanie, après 1918. Et il voulait parler de ses souvenirs d'enfance de soldats. Mais il ne parlait que du général Foch. Qui deviendra le maréchal Foch, évidemment.
Bien. Quelle est votre question, donc, après le commentaire?
Ma question, c'est quelles sont les valeurs respectives à l'époque, pas maintenant, mais à l'époque pour ces personnes nées à cette époque, entre Georges Clémenceau et le maréchal Foch?
Alors, la réponse, c'est le point de vue de Michel Vinocq, l'historien.
Clémenceau a toujours défendu l'idée que le pouvoir militaire est subordonné au pouvoir politique. Et ça, c'est une idée forte qui sera reprise plus tard par le général de Gaulle, quoique militaire et général lui-même. Donc, Foch est un subordonné de ce point de vue. Il est le chef des armées françaises, et Clémenceau, qui n'a aucune familiarité et aucune complicité avec ce général catholique, que lui est un anticlérical fervent,
radical. Laïcard radical.
Laïcard, bon, c'est un autre sujet, bon. Mais je conteste tout à fait.
Bon.
Parce que, bon, fin de parenthèse, reprenons le sujet. Eh bien, il a estimé en Foch ses qualités de chef, de commandant, et il a imposé, on peut dire, aux Britanniques que Foch devienne, en 1918, le généralissime des armées, par conséquent, qui se battaient sur le territoire français. Donc, entre eux, il n'y a aucune complicité, encore une fois, idéologique, intellectuelle, mais il y a un respect profond. Alors, ils vont se brouiller, attention, à la fin de la guerre. Et ça, c'est important. Vous parliez de la Rhénanie, madame. Eh bien, justement, la question de la rive gauche du Rhin a été débattue par les Français, pas seulement par les Français, évidemment, au Congrès de Paris, où on a discuté le futur traité de paix, mais une partie, et Foch lui-même, et Poincaré, désirait l'annexion de la Rhénanie, alors que Clémenceau, lui, s'est contenté d'une occupation de la Rhénanie.
Patricia Martin, une question à Michel Vinocq.
Une question de côté, Michel Vinocq, mais qu'on peut quand même rattacher à Clémenceau, dont vous rappeliez l'humour et son sens du propos. Il aurait dit, il n'y a pas de vieux messieurs, il n'y a que des femmes maladroites. Alors on se dit Clémenceau misogyne, mais Clémenceau féministe. Faut pas oublier qu'il était le grand ami de Louise Michel. D'ailleurs, il lui a évité de faire trop longtemps de la prison. Et pour en revenir, Michel Vinocq, c'est pour ça que c'est une question un peu de côté, à l'histoire immédiate. Cette émergence des femmes dans le débat public à l'heure actuelle avec Balance ton porc ou MeToo, est-ce que selon vous, bon c'est une première dans l'histoire, est-ce que c'est un mouvement de fond irréversible et est-ce que c'est un tournant dans l'histoire des rapports sociaux ?
Je pense qu'il faut prendre en considération effectivement ce mouvement qui révèle d'abord quelque chose. Une sorte de partie d'un iceberg, n'est-ce pas, qui est immergé et qu'on ne voyait pas vraiment. À savoir des rapports entre hommes et femmes qui n'ont pas, de manière universelle, mais dans un certain nombre de lieux, dans un certain nombre de circonstances, sont lamentables, déplorables, sexistes, et que, pour des raisons diverses, cette réalité-là était, sinon inconnue, tout au moins méconnue ou ignorée volontairement. Ça faisait partie, parfois, d'un certain folklore, d'idées reçues. Et puis, il y a ce thème de la virilité qui est très étudié depuis quelque temps par les historiens, qui fait que effectivement il y a entre hommes traditionnellement, il faut lire la littérature du 19e siècle, les dîners au café Magny, n'est-ce pas, entre les écrivains, pour savoir comment les hommes parlaient des femmes, avec un esprit de performance, notamment, qui fait que, je crois, ce qui se passe actuellement, malgré parfois ces outrances, ces dérapages, ces dérives, malgré cela, c'est un mouvement très important dans l'histoire de notre société.
Merci Michel Vinocq. Je rappelle votre dernier livre d'abord, ça s'appelle La France républicaine, histoire politique du 19e au 21e siècle, c'est chez Robert Laffont. Il y a une dizaine d'années, un peu plus peut-être, est sorti aussi votre biographie sur Clémenceau. Robert Laffont qui publie aussi un dictionnaire en ce moment, un dictionnaire Clémenceau et ses innombrables facettes. Et puis Jean Tellet qui vous a écouté religieusement, j'allais dire, vous êtes religieusement entre guillemets, j'ai bien compris. Jean Tellet, votre dernier roman s'intitule Entrer dans la danse, c'est chez Julliard. Merci à tous les deux. Merci. Et bonne journée.